Et en cette fin de semaine, Marie-Pierre, vous faites votre rentrée avec une revue de presse bien agitée.
Eh oui, Jonathan, et c'est bien peu de le dire. Vie politique enrayée, déficit persistant, gonflement de la dette, appel à tout bloquer, routes, usines, transports. Mais peut-on bloquer un pays déjà dans l'impasse? S'interroge Emery Christensen dans son édito du magazine La Vie. Et d'ajouter, le ras-le-bol ne fait pas un programme, pas plus que la colère ne dessine un projet. Sans corps intermédiaire, sans véritable représentation, le risque est fort de créer toujours plus de frustration qui peut gangréner en violence. Alors bien sûr, les raisons d'être mécontent de la situation économique, politique et sociale du pays ne manquent pas. Les inégalités se creusent, pauvreté et crise du logement augmentent, les services publics se dégradent, le sentiment de déclassement ne cesse de s'aggraver. Cependant, écrit Paul de Coustain dans La Croix de ce mardi, tout bloqué ne peut pas être une réponse satisfaisante, même à une colère légitime. Et du côté de Réforme, le journal protestant de l'actualité, Antoine Nouys, son rédacteur en chef, s'interroge également. À l'heure où les tensions internationales s'accroissent, est-il raisonnable d'entrer dans une période d'incertitude et de blocage plutôt que d'attendre les échéances électorales? Pour autant, bons journalistes, nos confrères de La Vie et de La Croix, et sous la plume notamment d'Emmanuel Pella, posent également la question de la légitimité de ce mode d'action. Ils donnent la parole à deux collectifs chrétiens engagés dans l'action du 10 septembre et à Julien Maricio, catholique pratiquant, qui présente l'Évangile comme un ferment de solidarité. Et enfin, à la manière du fou du roi, dans son billet d'humeur à lire dans La Croix de ce mercredi, Alain Raymond interpelle les lecteurs sur le truc à bloquer. Le truc? La bêtise humaine. Ça serait du blocage efficace.
On parle aussi de responsabilité partagée, Marie-Pierre.
Oui, toujours dans son éditorial du magazine La Vie, Emery Christensen renvoie chacun à sa propre responsabilité. Si la situation actuelle est le résultat, et je le cite, de politiques médiocres qui ont privilégié des enjeux à court terme, elle est aussi le fait d'électeurs qui auront préféré rester dans le déni, par idéologie, par peur ou par intérêt catégoriel. Sans oublier tous ceux qui ont amplifié toujours plus la polarisation, empêchant de voir, d'écouter, d'accepter ou de se remettre en cause. Dans cette crise actuelle, il y a un fait indiscutable que personne ne conteste, le poids de la dette publique qui ne cesse inexorablement de se creuser. Les Français seraient-ils prêts à faire des efforts? Pour nos confrères du Pèlerin, la réponse est oui, pourvu que l'effort soit équitable. Élevons un peu le débat avec le philosophe Olivier Abel, professeur émérite de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Dans les colonnes de La Vie, il expose comment, valorisé au cours de la période antique, associé aux valeurs républicaines, décrié bien souvent aujourd'hui par les jeunes et les moins jeunes, l'effort, une notion plus ambivalente qu'il n'y paraît, a évolué au fil des siècles. À cette notion d'effort, presque indissociable, il ajoute deux vertus. Le courage, alors non pas pensé comme héroïsme individuel, mais bien en tant que courage collectif. Et deuxième vertu associée, la responsabilité de chacun à s'interroger, à se poser les bonnes questions. Une très très belle réflexion que je conseille à tous.
Et les bonnes questions, Marie-Pierre, de nombreux jeunes se les sont posées et se les posent encore.
Oui, j'avais soif d'une vie plus profonde et plus radicale, glisse à Domitille Robert, notre consœur de la Croix, Laetitia, une jeune femme de 30 ans, aujourd'hui vierge consacrée. Pourquoi aujourd'hui des jeunes se tournent-ils vers la vie religieuse? Pourquoi s'engagent-ils dans cette vie exigeante et à contre-courant de notre société? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Autant de questionnements pertinents posés conjointement cette semaine par nos confrères de La Vie, de Famille chrétienne et de La Croix. Vous les lirez. Dans les colonnes de Famille chrétienne et de La Croix, j'apprends que Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre, aurait songé un temps à l'adolescence à prendre l'habit religieux auprès des moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Vendry. À l'ombre de cette abbaye du 7e siècle, rattachée à la congrégation de Solesmes, l'ancien ministre aux armées a su probablement discerner la direction à donner à sa vie. Puisse-t-il discerner aujourd'hui le juste chemin dans lequel engager notre pays?
Et dans la Croix Hebdo, on parle d'autres jeunes.
De jeunes qui rêvent d'un pouvoir autoritaire. En France, il nous faudrait un Poutine, Un pays, c'est comme un paquebot. Faut un capitaine. Si tout le monde décide, on ne va nulle part. Trump, lui, il ne prend pas de pincettes. Et alors ? Lui, au moins, on comprend ce qu'il dit. Il dit « Voilà les objectifs, voilà les moyens, voilà les solutions à nos problèmes. » Ces mots, ce sont ceux de Thibault, 24 ans, tout juste diplômé d'une grande école d'ingénieurs, et de Jordan, 28 ans, employé dans une coopérative agricole. Les deux jeunes hommes assument leurs propos, et d'autres encore du même acabit. Et ils ne sont pas les seuls. Comment en sont-ils arrivés là, à rompre les amarres avec la démocratie, ce régime que l'on croyait, alors naïf que nous sommes, installé à jamais? Marie Boétonne de la Croix Hebdo a cherché à comprendre. Dans un reportage qui interroge, qui interpelle, pas très agréable à lire, c'est elle qui le dit. Notre consoeur a rencontré quatre jeunes, tous quatre se situant à l'un ou l'autre extrême de notre échiquier politique. Des jeunes en plein désarroi, qui estimant que la démocratie ne tient pas ses promesses, réclament une action publique plus efficace et davantage de justice sociale, quitte à perdre quelques droits et libertés. Des jeunes qui confondent peut-être seulement autorité et autoritarisme. Marie Boétonne l'espère, et nous aussi.